Bonsoir à tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 7 et nous allons regarder les versets 21 à 29 ce soir, qui sont donc les dernières paroles ici du sermon sur la montagne auquel nous avons consacré pas mal de temps ces derniers mois. Et maintenant, nous avons la conclusion de la prédication de Jésus et la réaction de la foule. C'est Matthieu 7, les versets 21 à 29. Et ce passage, nous allons voir, forme une conclusion qui rejoint le début des exhortations pratiques de Jésus. Vous vous souvenez, il commence le sermon en disant « heureux les » et puis il va dire les différentes béatitudes. Mais ensuite, il fait cet enseignement au chapitre 5, c'est les versets 13 et suivants, que « vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est que bon être jeté dehors et foulé aux pieds. Et c'est vous qui êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Avec cette exhortation, donc, qu'ils doivent briller dans le monde et être du sel dans le monde par leurs œuvres bonnes. Et ça, c'est le début des exhortations pratiques de Jésus. Et nous allons voir dans notre passage, il va terminer avec cette même exhortation à mettre en pratique, à faire le bien dans la vie de tous les jours. Et donc, on lit Matthieu 7, versets 21 à 29. « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes. On voit dans ce passage trois choses, trois éléments de l'enseignement. Jésus va premièrement parler de ceux qui disent, mais qui ne font pas. Deuxièmement, il va parler de ceux qui écoutent et qui font ou ne font pas, avec ces deux possibilités. Et finalement, on voit Matthieu nous raconte la réaction de la foule à l'enseignement de Jésus. Et donc, on va commencer en regardant ces deux éléments avec cette question que pose Jésus ou que sous-entend Jésus. On peut dire les bonnes paroles, on peut entendre les bonnes paroles, mais est-ce qu'on fait les bonnes actions qui vont avec? Et voilà donc la question de Jésus. Avec cela, quand même peut-être une mise en garde ou un rappel pour nous. Et c'est que Jésus va parler ici d'un problème spécifique, d'accord? Et le problème, c'est une attitude de cœur qui peut dire « il suffit de réciter les bonnes paroles » ou « il suffit d'écouter les bonnes paroles pour être en ordre avec Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, sans plus, avec une vie qui ne correspond pas à Dieu. » Jésus s'adresse à cette attitude et au problème logique mais aussi pratique de cette manière de vivre. Je sais qu'il y a des personnes, on pense à l'histoire bien sûr de Luther lorsqu'il était moine et puis plus tard docteur de théologie, mais qui passent toute leur vie en terminant chaque journée en se posant la question « Est-ce que Jésus est en train de me condamner auprès du Père ?» Et « Est-ce que j'ai fait assez de bonnes œuvres aujourd'hui pour que Dieu veuille de moi ?» Ça, c'est pas un problème isolé chez certaines personnes, c'est vraiment une lutte chez beaucoup de chrétiens. Jésus n'est pas en train de parler à ces personnes en disant « Attention, vous pouvez être en train de dire « Seigneur, Seigneur », vous pouvez être en train de faire toutes sortes de bonnes choses, mais vous ne savez pas si vous êtes sauvé. » Jésus n'est pas en train de parler aux personnes qui cherchent de tout leur cœur de plaire à Dieu et qui luttent avec cette crainte de ne pas être suffisant. La réponse de Jésus à cela, c'est qu'il est venu pour sauver et donner sa vie en rançon pour beaucoup. La réponse de cela, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pour ceux qui craignent de ne pas être justes devant Dieu, premièrement, c'est vrai. D'accord? Nous ne sommes pas assez justes pour nous tenir devant Dieu. Mais la réponse, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cela, Jésus l'enseigne à multiples reprises, les apôtres l'ont enseigné, ça fait partie fondamentale du message de l'évangile. Donc, Jésus ne parle pas à ces personnes. Il parle plutôt aux personnes qui pensent qu'il suffit d'écouter, il suffit de dire les bonnes paroles et que Dieu n'a aucun égard de comment nous menons nos vies. Que notre manière de vivre du lundi jusqu'au samedi soir n'a aucune influence sur notre relation avec Dieu. Et c'est possible d'avoir ce problème-là. Et Jésus maintenant va avertir ces personnes que cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il faut le clarifier. On commence donc avec cet enseignement de Jésus qui ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ce passage peut nous surprendre parce que Jésus semble, peut-être par une lecture superficielle de ce passage, contredire ce qu'il dit à d'autres moments. Par exemple, dans Matthieu 10, versets 32 et 33, Jésus dit ceci. « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et là, Jésus semble dire, bon, si on dit Seigneur, Jésus est Seigneur, alors il va nous confesser. Tandis que dans Matthieu 7, il est en train de dire, il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 15, l'apôtre dit, « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Et je pense aussi au passage dans Romains 10, versets 9 et 10, qui dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Et donc, il y a une réalité biblique que la confession que Jésus est Seigneur est fondamentale à notre salut. Jésus n'est pas en train de remettre cela en question. Mais quand même, ça fait une petite tension. Il faut nous dire, mais de quoi parle Jésus s'il n'est pas en train de parler de cette confession de foi à la conversion et qui va guider notre vie? Et puis l'autre chose qui nous gêne peut-être même plus, c'est des gens qui, selon Jésus, sont en train de prophétiser, qui sont en train de chasser des démons et de faire des miracles au nom de Jésus. Et on peut dire, bon, comment c'est possible de dire que Jésus est Seigneur et de faire des miracles en son nom, et puis pourtant de ne pas être en communion avec lui? Parce que fondamentalement, c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous n'avez aucune relation avec moi. On va regarder quelques détails, mais premièrement, rappelons-nous que quand on regarde dans les évangiles, que le nom de Jésus lui-même a une certaine puissance qui est associée, n'est-ce pas? Que le nom de Jésus a de l'autorité. On voit dans Marc chapitre 9, les versets 38 et 39 ceci. Jean vient à Jésus et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. » Et de nouveau, une tension apparente avec ce que dit Jésus, mais remarquez quelque chose. Là, ce n'est pas quelqu'un à qui Jésus a imposé les mains, a donné un don pour chasser les démons ou autre chose, mais un exorciste, hein, ça c'est le terme technique, qui est en train d'agir au nom de Jésus. On voit ça dans les actes aussi, les gens reconnaissaient l'autorité spirituelle de Jésus, même lorsqu'ils ne comprenaient pas qui il était vraiment et ce qu'il faisait. Parfois, ça termine mal pour eux. D'accord? Donc, on pense à Éphèse, les exorcistes juifs, qui essaient de chasser les démons au nom de Jésus, que Paul prêche, et là ça termine mal. Mais ici, ça semble se passer assez bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on pouvait faire appel à l'autorité au nom de Jésus parce que c'était un nom puissant, et il semble que, à un certain moment, peut-être comme un signe que Jésus était vraiment de Dieu, cela marchait. Et donc, Jésus avertit contre ce phénomène, quand même, de dire, parce que je dis que Jésus est Seigneur, ou Kurios, c'est le mot grec, parce que je fais des miracles en son nom, j'ai mon entrée dans le royaume de Dieu. J'aimerais proposer peut-être un élément de contexte qui peut nous aider à comprendre ce que Jésus est en train de faire ici. Nous avons tendance peut-être à immédiatement appliquer au phénomène du chrétien du dimanche, d'accord? Ou du prédicateur qui vit autrement pendant la semaine. De dire, bon, je peux venir au culte et dire « Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau » et je chante les bons chants, je dis les bonnes paroles, je récite le credo peut-être, mais en semaine ça correspond pas. Et ça c'est une application légitime. Mais rappelons-nous que Jésus n'est pas encore mort et ressuscité à ce moment-ci. Et que des gens sont quand même en train d'appeler Jésus Seigneur. D'ailleurs, on verra en tout cas trois reprises dans les chapitres qui suivent, des gens qui viennent à Jésus en l'appelant Seigneur ou aussi Maître. Et l'attente du royaume de Dieu, c'est pas juste dire, bon, quand je meurs, est-ce que je vais aller au ciel ou pas? L'attente du royaume de Dieu pour un juif, c'était quoi? C'était que Dieu garde toutes ses promesses qu'il avait faites à Israël dans l'Ancien Testament. La promesse que le descendant de David allait venir régner. La promesse qu'il y aurait une nouvelle alliance qui serait donnée. La promesse du don du Saint-Esprit. La promesse du pardon qui serait déversé sur le peuple de Dieu. Et bien sûr, les promesses de résurrection et de vie éternelle. Mais tout cela faisait partie de l'attente du royaume de Dieu. Et l'idée d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est pas juste qu'est-ce qui va m'arriver après que je meurs, et qu'est-ce qui va m'arriver au jugement dernier, c'est est-ce que je vais participer à toutes les bénédictions et toutes les promesses que Dieu a fait à son peuple dans l'Ancien Testament. Et donc certains avaient une vision peu fausse. Hein. Ils imaginaient par exemple que ce serait un royaume politique, un empire mondial, et puis ils entreraient là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, la question c'est est-ce que je fais partie de ce peuple de la Nouvelle Alliance, de ce peuple du royaume ou pas? Et certains pensaient, bon, il suffit d'être descendant d'Abraham pour entrer dans ce royaume. Il suffit d'être descendant d'Abraham, peut-être garder les règles principales de la loi, et puis c'est bon, il n'y aura pas d'autres soucis. D'autres, peut-être, ils pensaient, il suffit d'être descendant d'Abraham et puis reconnaître que Jésus a raison lorsqu'il prêche le royaume de Dieu, mais pas aller plus loin. Il semble que Jésus parle, en tout cas, en partie de cette attitude, de certaines personnes qui disaient, Jésus vient et il est vraiment prophète, le royaume de Dieu vient vraiment, mais cela c'est suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu, je ne dois pas changer ma vie. Et deux exemples frappants que nous voyons de cela. Le premier, en fait, on a déjà vu, c'est dans Matthieu 3, versets 5 à 9. Jean-Baptiste est en train de prêcher. Il annonce la venue du royaume de Dieu. Et on lit ceci. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Génération de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On a un prophète du royaume. Il dit « Le royaume vient », et les pharisiens et les sadducéens viennent à Jean, ici non pas pour le confronter, mais pour faire quoi? Pour se faire baptiser par lui. Ils sont en train de dire en quelque sorte, nous reconnaissons ton autorité en tant que prophète. Nous acceptons ton message. Mais quel est le problème? Il n'y a pas de fruit de repentance. C'est la même chose que Jésus vient de critiquer dans Matthieu 7, les versets 19 et suivants. Il n'y a pas de fruit. Ils disent, on vient au royaume, on fait le baptême nécessaire qui est là, on accepte le prophète du royaume, mais il n'y a pas de fruit. Est-ce qu'ils vont entrer dans le royaume? Non. La réponse, c'est non. Dans une autre perspective, vous vous souvenez de l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3. Voici ce qu'on lit. Donc Nicodème vient voir Jésus, c'est dans Jean 3, les versets 2 à 3. Nicodème vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Rabbi, si jamais, l'autre traduction qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est « maître » ou « seigneur ». D'accord ? C'est exactement le même mot, hein, « maître » ou « seigneur ». Donc il vient et dit « Je sais que tu viens de Dieu ». Je sais que tu es le maître ou le seigneur. Quelle est la réponse de Jésus? Super, tu es prêt pour le royaume de Dieu? Non, qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui répond, ça c'est le verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut ou ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce n'était pas suffisant d'attendre le royaume de Dieu. Ce n'était pas suffisant d'accepter la prédication que le royaume de Dieu vient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se repentir. Il fallait naître d'eau et d'esprit. Il fallait changer sa vie. Vous voyez la difficulté. Donc, ce n'est peut-être pas une mentalité que nous avons. Parce que nous, le message commence avec la mort et la résurrection de Christ. Mais pour les auditeurs de Jésus, ils pensaient peut-être qu'on pouvait entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la case Jésus et sans passer par la case repentance. Vous voyez la difficulté qu'il y a. Et la réponse est non. Il faut une repentance, c'est-à-dire une vie qui est transformée et qui suit la volonté de Jésus. Et Jésus pose une condition supplémentaire donc pour entrer dans le royaume. Il ne faut pas juste dire que Jésus est maître, mais il faut lui obéir. Et c'est soit gonflé, soit c'est vraiment la parole de Dieu nécessaire pour survivre. Et donc maintenant, il va enfoncer le clou. Donc il ne faut pas juste dire les bonnes paroles, Jésus est Seigneur. Il faut faire la volonté de Dieu en suivant ses paroles. Et il utilise cette illustration que tous les enfants, même Eric, y connaît. n'est-ce pas? C'est que le fou sur le sable a bâti sa maison et le sage sur le roc a bâti sa maison. Et une illustration tellement parlante, n'est-ce pas? Là, c'est moins une menace, mais juste un avertissement de la part de Jésus. Celui qui écoute les paroles de Jésus et qui les met en pratique, qui entend ces paroles et qui les met en pratique, c'est quelqu'un qui construit sa vie sur une fondation solide, qui ne peut pas être ôté. Bon, on a peut-être au quotidien moins d'expérience dans la construction des maisons, mais je me souviens lorsque le locatif en face a été creusé, ils ont fait une fondation mais extrêmement profonde pour poser tout l'immeuble, d'accord ? Parce que déjà, il fallait garer les voitures sous-sol, mais aussi pour le poser. Et ils ont creusé pendant presque 6 mois, mais ça a pris plus longtemps que prévu parce qu'en creusant, ils sont tombés sur un roc. Et c'était pas un petit roc, mais c'était un rocher énorme. Et ils ont dû amener même une foreuse spéciale ou un marteau-piqueur géant qui était capable de briser le roc parce que c'était impossible de le casser avec les outils normaux qu'ils avaient. Et ce bâtiment-ci est aussi bâti sur le roc. Vous savez, le même rocher qui était en face. Et en fait, le plâtre a fissuré lorsqu'ils ont commencé à briser le roc de l'autre côté parce que ça vibrait jusqu'ici. Alors peut-être c'est un mauvais exemple dans le sens qu'on est bâti sur le roc et la maison a un peu tremblé, d'accord? Mais c'est parce qu'on est sur une fondation solide. N'importe qui peut pas briser ce roc qui est là. Et on sait que le locatif en face va durer très longtemps parce qu'ils sont sur une fondation solide. Personne n'est assez stupide pour construire sur le sable, sauf peut-être une cabane qui est là pour durer une saison ou deux. Et donc là, Jésus utilise vraiment un exemple ridicule, d'accord? On va pas construire sa maison sur du sable qui va bouger et au premier orage, c'est fini et ça va passer. À Lausanne, quand même, on construit sur la molasse, où on faisait au Moyen-Âge, vous savez. Et ça, c'est pas du sable, mais c'est du sable compacté jusqu'à devenir de la pierre. Même avec la molasse, d'accord, qu'est-ce qui arrive au bout de quelques décennies? L'érosion, d'accord. Vous pouvez aller au château, bon, ils sont en train de le rénover, donc il faut profiter d'y aller rapidement. Mais on peut mettre son bras, presque jusque-là, dans les murs du château, parce qu'il y a eu tellement d'érosion à cause de l'eau. Si ça c'est vrai avec la molasse, combien plus avec le sable? Jésus dit, une vie qui est construite sur autre chose que l'obéissance à ma parole, c'est ça. C'est juste du sable qui n'est pas capable de vous soutenir au moment de l'épreuve. Pour ses contemporains, peut-être qu'ils construisaient leur vie sur les rêves de révolution politique contre les Romains. On sait qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de Juifs qui étaient prêts à prendre les armes si le moment était propice pour gagner l'indépendance. Et ils mettaient leur espérance dans la révolution violente. Mais cela allait terminer, était voué au désastre. D'autres avaient mis leur espérance dans un élitisme religieux. Ils disaient, je connais toutes les lois de Dieu, je sais suivre tous les rites, et à cause de cela, je peux être en confiance. J'ai construit ma vie sur ce qui est essentiel. Et Jésus leur dira plus tard, bon, vous avez raté l'essentiel, qui était la miséricorde, qui était l'amour de Dieu et l'amour pour votre prochain. D'autres avaient tout misé sur la sécurité financière. Les questions éthiques, obéir à la loi de Dieu, tout ça c'était secondaire. L'essentiel c'était de tirer son épingle du jeu, d'assurer sa richesse personnelle même si on devait abuser des autres. Et de nouveau, c'est voué à l'échec. Jésus avertit contre toutes ces choses. C'est du sable. Le psaume 1 dira c'est de la paille que le vent emporte. Il y a une seule sécurité, il y a un seul avenir qui est assuré, c'est dans l'obéissance à la parole de Christ, l'obéissance qui est donnée ici à la parole du serment sur la montagne, sur une vie pleine de bonnes œuvres et de sainteté qui honore Dieu et qui fait du bien aux autres. Pour nous qui vivons de l'autre côté de la croix et de la résurrection, le message est toujours aussi applicable, bien entendu. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi, mais qui vivent plus que juste une confession des lèvres ou une écoute des bons enseignements. Jacques écrit dans Jacques chapitre 1, les versets 22 et 25 ceci. « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et nous avons besoin de ce rappel. Ne soyons pas juste des auditeurs, mais soyons des faiseurs de la parole. On ne peut pas être des croyants non pratiquants, selon Jésus. Enfin, on peut l'être, mais le résultat sera terrible. On n'entre pas dans le royaume de Dieu, notre maison va s'effondrer. Celui qui dit que Jésus est Seigneur, celui qui veut le suivre, va forcément chercher à mettre en pratique sa parole. Et d'être chrétien, d'être disciple de Jésus, c'est dire « je vais suivre non seulement en acceptant et en disant d'une manière intellectuelle ce que Jésus dit est vrai, mais c'est « je vais faire au quotidien ce que Jésus demande ». Pour nous donc, il ne suffit pas, on parle de croyant non pratiquant, ou peut-être on parle aussi du chrétien du dimanche, n'est-ce pas, vous connaissez cette expression. Et ça c'est l'idée, je vais à l'église, je vais peut-être à la réunion de prière ou l'étude du mardi ou du mercredi soir, et puis comment je mène ma vie, le reste du temps, cela, Dieu s'en fiche, j'ai mon tampon spirituel pour la semaine, j'ai fait le nécessaire pour plaire à Dieu. Et Dieu demande plus de nous. Si je suis un père qui alcoolique, qui bat mes enfants et qui tyrannise ma femme, mais je vais à l'église fidèlement tous les dimanches, est-ce que je suis en ordre avec Dieu? Bon, gloire à Dieu, non. Nous sommes heureux que Dieu a des demandes éthiques, que Dieu a des attentes moraux de notre part et désire que nous soyons des personnes qui rendent témoignage. Comment être des faiseurs de la parole et pas juste ceux qui écoutent, qui entendent la parole? Il faut être confronté au miroir de la parole. Si nous n'écoutons jamais Jésus, on ne peut pas mettre en pratique ce qu'il nous demande. Donc ça commence bien sûr par l'écoute, mais ensuite il faut une décision de mettre en pratique. Et il y a différentes approches, je vous donne juste une suggestion, mais je connais de nombreuses personnes qui en lisant la Bible, gardent juste un carnet, et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient toujours de noter une chose qu'ils ont apprise, mais ne pas s'arrêter là, de toujours noter une chose qu'ils vont faire cette semaine. Et de se fixer un défi en disant comment est-ce que la parole de Dieu peut transformer ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour suivre Jésus plus fidèlement? Et de travailler à laisser la parole de Dieu nous transformer, en consacrant aussi ses décisions par la prière. Mais ce serait quelque chose que je vous encourage à faire aussi dans votre lecture quotidienne de la Bible, de toujours essayer de choisir une chose par semaine que vous allez faire, de différent dans votre vie, pour suivre Dieu. Et je sais que vous cherchez déjà à le faire, mais c'est une manière de grandir. Jésus ici ne remet pas en question, et je veux souligner ça, il ne remet pas en question le salut par grâce, que c'est son sacrifice sur la croix qui est la seule clé pour être sauvé. Mais il est en train de dire que si nous sommes ses disciples, cela change notre vie. On n'est pas juste des disciples par la parole, pas juste des disciples par les oreilles, mais c'est par toute notre vie. Et avec cela, nous avons donc la réaction de la foule. Et n'aimez-vous pas lire ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ils étaient frappés par son enseignement. Jésus est vraiment très particulier. Il n'était pas comme les rabbins, nous disent les Écritures, mais il n'était aussi pas comme les prophètes. Je ne sais pas si vous savez quel est un peu le refrain des prophètes dans l'Ancien Testament, mais c'est des paroles comme « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle Yahvé » ou « Oracle de l'Éternel » ou « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Et on a sans arrêt ce refrain qui dit « Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci » et puis on a les paroles du prophète. Avec Jésus, il ne fait pas ça. N'est-ce pas remarquable? Jésus n'est pas comme les rabbins, c'est-à-dire il ne dit pas « la tradition dit telle et telle » ou « rabbin ceci ou cela a dit cela ». Il ne fait jamais appel à l'autorité des autres rabbins, mais il ne fait pas non plus appel à l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait? Il dit « Amen » ou « En vérité, je vous le dis ». Il dit « Vous avez entendu, mais moi, je vous dis ». Et voilà ce qui frappe, à mon avis, pas juste le contenu de l'enseignement, mais comment Jésus enseigne. Il est en train de faire appel à sa propre autorité, comme les prophètes faisaient appel à l'autorité de Dieu. Et ça, c'est soit terriblement gonflé et arrogant de la part de Jésus, soit c'est ce que ferait effectivement Dieu s'il se faisait homme et venait vivre parmi nous. Souvent, on fait appel au sermon sur la montagne pour dire, voilà, Jésus était un enseignant moral, très très sage, mais il se prenait pas pour Dieu. Pensez, ignorer comment Jésus parle, n'est-ce pas? Il parle en se prenant pour Dieu, parce qu'il base son enseignement sur sa propre autorité en tant que le Logos, la parole de Dieu, faite chair. Et il nous dit de choisir. Est-ce que nous allons suivre sa parole, en l'acceptant comme la parole de Dieu? Ou est-ce que nous allons chercher autre part? Amen, amen, ou en vérité, moi, je vous le dis. Jésus nous appelle à l'écouter et à l'accepter comme la présence de Dieu parmi nous. Et j'ai la conviction, et je sais que vous l'avez aussi, que Jésus ne ment pas lorsqu'il fait cela. Il n'est pas un fou, il n'est pas un mégalomane, mais il est vraiment Dieu parmi nous, la parole de Dieu faite chair. L'exhortation pour nous, c'est de ne pas juste écouter cette parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. D'être lumière dans le monde, d'être sel de la terre, et nous ne le faisons pas par nos propres efforts. Nous le faisons par la grâce de Dieu, nous le faisons porter par la prière, nous le faisons par la puissance de l'Esprit, mais nous cherchons tous les jours à mettre en pratique la parole et à agir.